RCF.
Patrick Lemoine, bonjour.
Bonjour Véronique.
Vous êtes l'auteur chez Odile Jacob d'un livre intitulé « La santé psychique des génies, génie du bien, génie du mal ». Vous êtes l'auteur également d'un livre qui était paru en 2020, que vous aviez intitulé cette fois « La santé psychique de ceux qui ont fait le monde ». Vous passiez en revue un certain nombre de personnalités dont vous essayez de dresser un portrait psychologique et de voir de quelle forme de pathologie éventuellement ils souffraient. Il faut quand même préciser que vous êtes psychiatre, docteur en neurosciences et directeur d'enseignement à l'université Claude Bernard de Lyon. Vous êtes également expert auprès des tribunaux. Alors, dresser comme ça le portrait d'un certain nombre de célébrités, de personnages qui ont marqué l'histoire, c'est en partie un peu risqué, parce que pour certains d'entre eux, ils sont très éloignés de nous dans le temps. Sur quoi repose votre travail et le diagnostic que vous posez ?
Il faut bien comprendre, ça n'est pas un livre d'historien. Je ne suis pas un historien, je suis un clinicien. Et donc, j'ai adopté la technique qui est la mienne quotidiennement depuis plusieurs décennies, à savoir utiliser ce que nous appelons l'intuition clinique. Et je trouve que c'est un outil étonnant, puisqu'il y a eu pas mal d'études avec des vidéos où on enregistrait des psychiatres à qui on présentait le même cas en vidéo, et puis parallèlement on montrait une échographie à des cardiologues. Et il a été montré que l'intuition clinique du psychiatre est plus fiable. Il y a une meilleure fidélité interjuge, pour parler le jargon scientifique, chez les psychiatres que chez les cardiologues. En d'autres termes, ça veut dire que l'intuition clinique est un outil scientifique valide à partir du moment qu'il ait bien été étalonné dès le départ.
Donc il n'est pas arbitraire ?
Totalement arbitraire, ce que j'assume. Ce qui est le plus arbitraire dans ce livre, c'est le choix de mes génies. Parce qu'effectivement, pourquoi Léonard de Vinci, pourquoi pas Michel-Ange, par exemple ? Donc il y a forcément... Sinon, c'était une encyclopédie que je faisais. Mais donc, j'ai été arbitraire dans les choix. Bien sûr, j'ai demandé à mon entourage et à tous mes amis de me suggérer des noms. En revanche, la méthode, dire qu'elle est arbitraire, non, je suis pas d'accord. Je pense qu'elle est fondée sur l'expérience clinique.
Et sur l'observation.
Parce que finalement, à force de lire sur Léonard de Vinci, par exemple, eh bien, on s'aperçoit tout d'un coup que, Eureka, ça y est, j'ai trouvé, je sais ce qu'il est. Et après, donc, tout le reste de la consultation, ici, de l'écriture, c'est de vérifier si l'intuition est nourrie ou, au contraire, si elle est infirmée par les différents textes.
Alors évidemment, la question que je ne peux pas ne pas vous poser, c'est qu'est-ce qu'un génie ? Est-ce qu'il existe une définition scientifique, psychiatrique du génie ?
Non, pour moi, il y a une définition étymologique. Un génie, c'est quelqu'un qui engendre. C'est la genèse de la Bible. Donc toute personne qui engendre quelque chose de complètement neuf, qui fait table rase du passé, pour qui on peut dire il y a avant et après, est un génie. C'est la raison pour laquelle, selon moi, le plus grand génie de tous les temps, c'est Dieu, puisqu'il a engendré le monde.
Alors, génie, mais c'est aussi le sous-titre de votre livre. Qui dit génie, a priori, dit pour du bon, pour du bien, au service de ce qui va dans le sens de l'humain, du progrès, si le mot de progrès signifie quelque chose.
Oui.
Mais vous suggérez qu'on peut être un génie du bien et un génie du mal.
Absolument. Pour moi, il y a trois catégories de génies. Il y a ceux qui, toute leur vie, se sont voués au bien. Je pense à Sœur Emmanuelle, je pense à l'abbé Pierre, je pense à d'autres qui ont dit qu'ils faisaient le bien, comme par exemple Saint-Louis, qui a quand même fait beaucoup de mal dans sa vie, avec la croisade des Albigeois, avec l'éviction des Juifs du royaume, juste pour leur piquer leurs sous. D'ailleurs, ce n'était pas un antisémite, c'était un anti-banquier, ce qui est autre chose, mais il tenait pas parole. Et puis, il y a des... Donc, ils ont été très créatifs pour le bien. Je vous dis, l'abbé Pierre, Coluche, Sœur Emmanuelle, ont été des génies du bien, selon moi, très créatifs dans leur domaine. Coluche avec les Restos du Cœur, c'est un coup de génie, même si c'était un travail d'intérêt général à la suite d'une condamnation. Et puis, il y a des gens qui sont extrêmement créatifs pour faire le mal. Je pense à Pol Pot, je pense à Hitler, je pense à Chaka, ce roi zoulou du 19e siècle, dont le territoire était quand même plus grand que la France. C'était pas un petit roitelet. Et qui, lorsque sa mère est morte, il a décrété le deuil national chez les Zoulous. Les maris n'avaient plus le droit de dormir avec leurs femmes, les taureaux avec les vaches. Et si une femme ou une vache était enceinte, on éventrait la vache ou la femme.
On peut donc être un génie du mal.
Être un génie du mal, absolument. Et c'est terrifiant.
Il fait soleil dans la banlieue de la pluie. Je me réveille, l'astre solaire, lui, je ne l'attendais pas pourtant, avant le prochain printemps. Au saut du lit déboule un arc-en-ciel, cadeau du ciel, espiègle et joli, un nuage qui était de la fête, on a perdu la tête. Adieu la grisaille de mon cœur, rien ne sera plus comme avant. Je laisse la mitraille au moqueur et leur sarcasme à tous les vents. S'envoleront dans la nuit profonde de l'ennui. Ce matin la vie a du génie.
La suite de l'histoire.
Patrick Lemoine, on va très vite commencer à parler du prototype du génie dans l'esprit de chacun d'entre nous. Par voie de conséquence, suite à ma prochaine question, qui est le cerveau d'un génie. Est-ce que il a quelque chose de spécial, ce cerveau? Est-ce qu'on a pu observer que tel ou tel lobe est plus développé que l'autre, qu'il a une plasticité particulière? Enfin voilà, vous qui êtes psychiatre et
scientifique,
comment vous diriez que...
C'est une question difficile, puisque à ma connaissance, parmi tous les génies qui ont été connus dans l'histoire de l'humanité, il n'y en a qu'un dont le cerveau a été étudié, alors qu'il avait demandé à ce que ce ne soit pas fait, c'est Albert Einstein. Donc lui, il avait dit surtout, je ne veux pas, vous ne devez pas prendre... Et nuitamment, en cachette, on a piqué son cerveau, ainsi que ses yeux d'ailleurs, et on l'a disséqué.
Et, pourquoi? Parce que on se demandait d'où une telle intelligence.
C'était exactement votre question qui se posait, c'est-à-dire est-ce qu'on trouve quelque chose d'anatomique qui explique le génie, puisque normalement Albert Einstein on considère comme le génie absolu. Si vous faites un micro trottoir, que vous dites citez-moi un génie, en général c'est Einstein qui sort en premier. C'est le paradigme du génie.
Alors qu'est-ce qu'on a pu observer en regardant le cerveau d'Einstein?
Alors c'est très très particulier et ça va tout à fait dans le sens de ce que je défends comme théorie. À savoir que les lobes apparemment sont classiques. En revanche, il y a ce qu'on appelle une hyperconnexion. À savoir que le lobe droit et le lobe gauche sont connectés de manière extraordinaire. Beaucoup plus que chez le commun des mortels. Or, selon moi, un génie, c'est quelqu'un qui est un enfant finalement. C'est-à-dire qui est capable d'accepter comme tout à fait possible... comme dans Walt Disney, que les tasses à café se mettent à danser autour d'une théière qui leur parle. Pour eux, c'est tout à fait normal. Les petits gamins de 3-4 ans, ils voient un dessin animé, c'est normal. Et Albert Einstein lui-même disait, à 20 ans, j'avais pas encore résolu des questions normalement réglées à 3-4 ans.
De type ?
C'est quoi le temps ? C'est quoi l'espace ? Vous savez, les petits enfants, quand vous leur dites, tiens, demain, on va aller dans un parc. Et tous les jours, ils vont vous dire, aujourd'hui, c'est demain. Et ils n'ont pas de notion du temps. Ni d'espace.
Dans combien de dodos, quoi.
Voilà. Après, c'est ce qu'on leur dit.
Oui.
Mais au début, on n'arrive même pas à ça, ils ne savent pas encore compter. Donc le aujourd'hui, c'est demain, moi, mes trois enfants et mes quatre petits-enfants me l'ont fait. Donc ça, c'est, à mon avis, constitutif de l'espèce humaine. Or, Albert Einstein disait, moi, à 20 ans, ce n'était pas résolu. Ce qui fait que lorsqu'il a fait ce fameux rêve, c'est lui qui le raconte, où il descend sur une luge, il dévale à toute allure, toute allure, toute allure, toute allure, il lève les yeux au ciel et il voit les étoiles qui se déplacent également à toute allure. Au réveil, E égale MC2, le temps, l'espace, c'est pareil, il y a une équation qui les relie. Il se fiche, Albert Einstein, d'Euclide et toute la géométrie qui était avant lui. Il invente la relativité comme un enfant qui... C'est pas grave, je dis quelque chose qui est absurde, qui est impossible, mais ça fait rien, c'est nouveau. Et donc le fait qu'il ait réussi à connecter son cerveau enfantin, on va dire l'inconscient, on va dire le réseau affectif, ou le monde des esprits, si on est un chaman sibérien, le réseau affectif, si on est un neuroscientifique, avec le cerveau rationnel, celui de Descartes, de la raison et tout, lorsque on a une brèche, et chez lui apparemment c'était une béance, entre ses cerveaux droit et cerveau gauche, si on accepte...
C'est dans cette brèche que...
Exactement, c'est-à-dire que c'est le cerveau droit qui accepte ce que lui raconte le cerveau irrationnel. Et pour moi, il est là, le trait de génie.
Est-ce que ça signifie que ces personnes-là ne s'interdisent rien, n'ont pas de tabou dans la pensée, dans l'imagination, que tout est possible finalement, alors que nous, adultes, disons raisonnables, nous nous censurons, nous interdisons certaines choses.
On s'auto-censure, et on voit bien tous ces gens dont je parle, que ce soit dans le bien, dans le mal, ou les scientifiques, les artistes, ils sont ni dans le bien ni dans le mal, ils sont ailleurs, ils font du beau, ils font de la science. Quoique Einstein ait un
peu fait
du mal du côté de la bombe atomique. Mais bref... Ils ont une idée de génie qui leur vient probablement donc de ces réseaux affectifs, de ces réseaux inconscients, qui n'est pas censuré, et ils se contrefichent du regard des autres. Lorsque Picasso...
Alors j'allais vous demander d'autres exemples dont on n'a pas regardé le cerveau, mais dans les comportements et dans l'intuition.
Lorsque Picasso, par exemple, fait Les Demoiselles d'Avignon, lorsqu'il fait Galinka, lorsqu'il fait tous ces tableaux... Inconcevable quand même, ces femmes coupées en morceaux, le cubisme, c'était absurde à l'époque. Ils se fichaient de l'époque des pompiers, de l'époque des impressionnistes. Lui, c'était ce qu'il avait dans le cerveau, dans sa tête, et peu importait les écoles de l'époque.
Et donc, ça nous dit à quel point ces personnages, quelle que soit la discipline ou le domaine dans lequel ils évoluent, sont capables de création, finalement, et de choses qui...
Génie, c'est celui qui crée.
Voilà. Et avant, c'était autre chose, et après eux, il y a du nouveau.
C'est ce que les Américains appellent le renversement de paradigme.
On a donc vu avec vous, Patrick Lemoine, ce qui peut, disons, caractériser un cerveau génial, le cerveau d'un génie. Vous avez donné l'exemple de Albert Einstein, qui, laissant finalement dialoguer, alors vous allez sûrement reprendre mes mots parce qu'ils sont peut-être pas très ajustés, mais sa raison et son affect, ses intuitions, arrivent à créer quelque chose qui, jusque-là, n'avait jamais été envisagé, quoi. Est-ce qu'on peut dire donc qu'il s'agit forcément de gens qui font le bien ? Est-ce que Einstein est un génie du bien, puisqu'il laisse son imagination s'exprimer jusqu'à découvrir la relativité ?
Et non. D'ailleurs, j'ai longuement hésité à le classer dans les génies du bien, génies du mal ou les neutres. Par exemple, je ne sais pas moi, Léonard de Vinci a quand même fait lui aussi des armes de destruction massive, donc il n'est pas complètement blanc-bleu du côté du bien. Mais il y a quand même Pasteur, par exemple, c'était un scientifique. Alors, il a fait du bien parce qu'il a inventé des vaccins. Mais son problème, c'était de faire des découvertes scientifiques et médicales. Donc tous ces génies, parfois, ne se classent pas forcément du côté du bien ou du mal, mais ils peuvent être neutres.
Pourquoi est-ce que Einstein serait classé du côté des génies du mal ?
Parce que c'était un sale type, quand même, avec tout son entourage. Il a été abominable avec sa femme. Bon, qu'il soit coureur de jupons, à la limite, c'est son problème. Mais la manière dont il a traité sa femme, qui était quand même une grande mathématicienne, qu'il a beaucoup aidé au départ, qu'il a dégagé, pour parler à la mode, et qui, quelques années plus tard, alors qu'ils avaient un fils schizophrène à qui il a jamais rendu visite de toute sa vie, et qui lui a dit quand même, tu pourrais peut-être me citer de temps en temps, lorsqu'une personne est médiocre, elle ferait mieux de se taire. Et il a été terrible. Et puis, de parfaitement mauvaise foi, lorsqu'il a, bon, il est arrivé aux États-Unis, auréolé, son prix Nobel, chassé par les nazis, enfin, il a fui les nazis, pour être plus précis, et il écrit à Roosevelt, président des États-Unis. Et Roosevelt s'empare de cette lettre, met au point une task force, et qui arrive à la bombe atomique. Et Einstein, qui se disait pacifiste, qui se disait un athée religieux, qui se disait végétariste et non pas végétarien, il disait, mais non, je suis consterné de ce que cette lettre a déclenché, la bombe atomique, vous rendez compte, moi.
C'est-à-dire qu'à partir de sa découverte, on a élaboré la bombe atomique, c'est ça?
Je n'en crois pas un mot.
Pourquoi vous n'en croyez pas un mot?
Parce que je pense que c'était tout sauf un naïf. Et que s'il a écrit à Roosevelt, c'est pas pour rien. Et que je pense qu'il savait pertinemment bien où ça allait mener.
C'est une intuition que vous avez ?
C'est une intuition, c'est mon intime conviction. Mm-hmm. Parce que c'était pas un naïf, lui. C'était un homme qui avait une très grande clairvoyance. Rappelez-vous quand même qu'il a été proposé pour être le premier président de la République dans la fondation de l'État d'Israël. Donc c'était quand même aussi apolitique, qu'on le veuille ou non. Et quand il a écrit cette lettre, il avait quelque chose derrière la tête. Peut-être qu'il savait pas que les Américains le balanceraient sur Hiroshima, Nagasaki. Mais je pense qu'il savait quand même que l'application bombe atomique était très possible et qu'il allait impulser un truc.
Comment est-ce qu'il se comportait avec la communauté scientifique de manière générale ?
Plutôt très mal, parce que justement, il ne citait pas ses quelques prédécesseurs. Il y avait quelques scientifiques qui avaient un peu ouvert le chemin. Pas exactement, parce que lui, il a quand même fait une vraie découverte. Mais il y avait d'autres gens sur lesquels il aurait pu s'appuyer et les citer, ce qu'il n'a jamais fait. Et donc, c'était un type qui était... pas de très bonne foi, pas totalement honnête scientifiquement, mais génial.
Cette photo très fameuse que l'on connaît de ce type hirsute avec une tête de papy qui tire la langue comme un petit garçon.
Ben, c'était un roi de la provocation, c'était un roi des médias aussi. Il était sans arrêt interviewé, il avait un côté très diva quand même, Einstein. Et d'un autre côté, on peut se demander s'il n'était pas du côté de l'autisme d'Asperger, parce qu'il était... apparemment incapable de se mettre à la place des autres. Il était dans son monde, il allait son chemin, et peu importait ce qui se passait. Aussi pire, peut-être même pire que Picasso, dans ce registre-là. Et les gens qui ont cet autisme d'Asperger sont des gens qui sont souvent brillantissimes. Hein. On a eu quand même un candidat à la mairie de Paris, qui était donc Cédric Villani, qui ne conteste pas ce diagnostic d'autisme. Il a eu l'équivalent du prix Nobel de mathématiques, et on voit qu'il est complètement à côté de la plaque.
Mais est-ce que cette photo d'Einstein, pour revenir à elle, ça n'est pas tout simplement la représentation de ces deux personnalités qui cohabitent à la fois l'adulte raisonnable et à la fois l'enfant sans limite?
Je suis totalement d'accord avec ça. Il fait le sale gamin, tout en, avec son E égale MC2 qui est au tableau derrière lui, et pour montrer qu'il est le meilleur mathématicien, physicien de tous les temps, mais qu'il est encore un sale gamin qui tire la langue et qui fait la pige, la nique aux scientifiques.
Un diagnostic pour Albert Einstein ?
Moi, je le mets vraiment du côté de l'autisme d'Asperger.
It followed from the special theory of relativity.
Albert Einstein expliquant le principe de la relativité.
That mass and energy are both different manifestations of the same thing. A somewhat unfamiliar conception for the average man. Furthermore, the equation
la suite de l'histoire.
Une autre scientifique, une femme cette fois, c'est Marie Curie qui figure également dans votre livre. J'aimerais d'abord vous poser une question d'ordre un peu général sur ces génies. Est-ce qu'ils ont conscience de leur génie ? Tous ?
Tous non. Beaucoup oui. Si vous prenez Picasso, il n'arrêtait pas de le dire. Leonard Vinci en était totalement conscient. Einstein en était totalement conscient. Donc il y en a un certain nombre qui en sont conscients, surtout je dirais du côté des scientifiques, mais aussi des artistes. Bon, j'ai mis Zidane comme génie du foot. Je ne pense pas qu'il soit tellement conscient d'être un génie, même si on m'a dit que c'était le plus grand génie du foot de tous les temps.
On va y revenir,
si on
mais...
On m'a dit qu'un jour je parlerai
de Zidane, ouais. D'ailleurs, c'est vrai que ça fait sourire quand on regarde les portraits que vous...
Oui, surtout que moi j'étais un épéiste, j'étais certainement pas un joueur de foot.
Alors Marie Curie, est-ce qu'elle, elle avait conscience de son génie ?
Je crois qu'elle était très modeste, Marie Curie. C'était une femme... exceptionnelle. Pour moi, elle est numéro un avec Darwin, de ces génies modestes qui ont également fait table rase du passé. Il y a aussi un avant Darwin, un avant Marie Curie et un après, et qui ont œuvré en permanence, alors là, consciemment pour le bien, qui ont toujours voulu le bien de l'humanité, qui ont été très honnêtes aussi avec la communauté scientifique.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous permet de dire
Curie,
ça ?
Marie Curie a quand même toujours cité les travaux qui la précédaient. Elle a beaucoup travaillé avec son mari. Et c'est l'opposé de Einstein avec sa femme. lorsque le prix Nobel a été attribué à Pierre Curie, évidemment, bon macho, le jury l'avait oublié, elle. Et à ce moment-là, c'est Pierre Curie qui a dit « Moi, j'y vais pas si Marie n'est pas. Elle a un aussi grand rôle que le mien. » Et il y est allé. Et un peu plus tard, lorsqu'elle a eu son deuxième prix Nobel, comme il avait été révélé, c'était pas Mediapart à l'époque, mais enfin, il avait été révélé qu'elle était la maîtresse de Langevin, le ministre macho, xénophobe, il faut la renvoyer,
polonaise.
C'est une mauvaise femme, il faut la renvoyer à l'étranger, cette sale polonaise, elle est restée. Et lorsqu'il a été question d'aller chercher son deuxième, c'est quand même la seule femme au monde à avoir deux prix Nobel. Et il n'y a que un chimiste, Linus Pauling, qui a eu deux prix Nobel. C'est, il n'y a que deux cas dans l'histoire. Eh bien, elle y est allée quand même contre vents et marées. Et tenez-vous bien, aucun média français n'en a fait mention. Aucun média. Donc, elle a été, alors que cette femme extraordinaire a réussi, alors qu'elle était malade, d'ailleurs, elle est morte de ses recherches, puisqu'elle, à l'époque, on savait pas que les radiations, c'était très dangereux. Elle a quand même enchaîné les épisodes dépressifs. Était-elle bipolaire ou unipolaire? J'ai pas de certitude à ce sujet-là.
En tout cas, des périodes dépressives.
Ah oui, qu'elle a enchaîné, mais elle avait des raisons aussi, quand même. C'était presque légitime d'être déprimée, perdre son mari bêtement qui se fait écraser par un fiacre devant chez eux. Tous les ennuis qu'elle a eu donc avec le gouvernement français, avec les médias, elle a été traînée dans la boue. Elle a trouvé moyen quand même, pendant la guerre de 14-18, de monter une espèce d'escadron d'infirmières avec des véhicules. Ils allaient dans les tranchées avec un appareil radiographique qu'elle avait inventé pour faire des radios sur place aux poilus. Et elle a sauvé des tas de vies humaines comme ça, et à ses risques et périls. C'était pas facile pour une femme d'aller dans les tranchées.
Quelle mère était-elle ?
Exceptionnelle, extraordinaire. Ça a été une mère exemplaire. Être bonne épouse, bonne mère et immense scientifique, n'oubliez pas quand même que sa fille aussi a eu le prix Nobel, ainsi que son gendre, puisqu'elle son autre fille qui dit « Oui, je suis la seule à avoir échoué ». Alors c'était une immense journaliste hyper connue.
Pasteur, un mot de Pasteur ?
Ah, Pasteur, je serais un peu moins enthousiaste. Bon, c'est un immense génie aussi qui a sauvé certainement des centaines de millions de vies dans l'histoire, puisque c'est au gros l'hygiène... chirurgie, ce qui a permis de sortir de ce mythe qui était la génération spontanée. Vous savez, à l'époque, on disait on met une préparation stérilisée avec des légumes, par exemple, un bouillon de culture, et puis, spontanément, vont naître ex nihilo, à partir de rien, des microbes. Et puis, certains allaient plus loin, même dans l'Antiquité, vous mettez un tas de chiffons dans une pièce, et vous verrez que vont naître des souris, spontanément. Et c'est lui, le premier... Après une bataille homérique contre tous les scientifiques, ou presque tous les scientifiques de l'époque, qui a démontré que ça n'existait pas, la génération spontanée. Et à partir de là, il a inventé la pasteurisation, par exemple, et donc l'hygiène. Et je pense que si les chirurgiens font tant de prouesses, c'est en grande, grande partie grâce à Pasteur, qui en plus avait le génie de l'opportunisme. C'est-à-dire qu'il trouvait des trucs par hasard, ce qu'on appelle la sérendipité en bon français. Mais tout le monde l'aurait laissé tomber, et lui, il avait le génie pour dire « mais si, c'est ça ». C'est comme ça qu'il a trouvé des vaccins par hasard. Et il a eu cette phrase magnifique « la chance ne favorise que les esprits préparés ». Et ça, c'est une très belle phrase.
Après Albert Einstein, Marie Curie et Louis Pasteur, nous poursuivons avec vous, Patrick Lemoine, l'évocation d'un certain nombre de ces génies qui ont marqué l'histoire et auxquels vous consacrez ce livre paru chez Odile Jacob, « La santé psychique des génies, génie du bien, génie du mal ». Alors il faut évidemment aussi s'arrêter, comme vous le faites dans votre livre, sur cet immense nom qu'est Freud, l'inventeur de la psychanalyse, que manifestement vous ne portez pas beaucoup dans votre cœur. Vous êtes quand même assez critique vis-à-vis de Freud. D'ailleurs, ces dernières années, ses travaux ont été beaucoup remis en cause. Vous le classez où, Freud ?
J'étais très embarrassé, puisque je me suis amusé à la fin de chaque chapitre de leur donner une note. Par exemple, Sœur Emmanuelle, c'est 10 sur 10. Elle est complètement bien, complètement, elle est exceptionnelle. Darwin, Marie Curie, également autour de 10 sur 10. Pol Pot, Staline, 0 sur 10. Et lui, j'ai hésité entre 4,9 et 5,1 sur 10. Parce que, comment dire, je suis ambivalent vis-à-vis de lui. Parce que, quand même, c'est un génie. Qu'on le veuille ou non, il a fait des découvertes impressionnantes. Et surtout, et c'est là qu'on doit lui rendre hommage, il a appris aux psychiatres et au monde entier que les malades mentaux, ben, on pouvait les écouter, qu'on pouvait les respecter, qu'on pouvait de temps en temps essayer de comprendre ce qu'ils nous disaient, même si c'était avec des métaphores qu'on appelle le délire. Mais que ça pouvait être intéressant. Et rien que pour ça, il mérite quand même d'être respecté.
Mais la question des cures et des traitements qu'il a engagés avec un certain nombre de malades.
Alors, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est un aphorisme auquel je tiens beaucoup, la psychanalyse fait d'autant plus de bien qu'on va bien, et d'autant plus de mal qu'on va mal. En d'autres termes, c'est pas un traitement. Pour moi, la psychanalyse, la cure psychanalytique, c'est la plus extraordinaire méthode jamais inventée de développement personnel. Pour faire un magnifique voyage à l'intérieur de soi, aller dans les profondeurs de son inconscient, si on va bien, c'est extraordinaire. Il n'y a pas de meilleur outil. En revanche, j'ai tellement vu de gens décompensés se suicider au cours d'une cure psychanalytique que je le déconseille formellement. Pour moi, c'est une contre-indication chez les malades. Donc, c'est pas un soin, c'est du développement personnel, ce qui lui donne une grande place, malgré tout. En revanche...
Qu'est-ce que vous appelez les malades ?
Les névrosés, les déprimés, les psychotiques, les phobiques, les hystériques, les états limites, tout ce que vous voulez. Des gens qui sont psychiatriquement perturbés. Le pire pour la psychanalyse, la pire contre-indication étant la dépression. Pour une raison très simple d'ailleurs. Quand vous êtes déprimé, en gros, vous regardez tout le temps dans le rétroviseur. Avant c'était mieux, j'ai pas d'avenir, no future. C'était tellement plus formidable auparavant, jamais je retrouverai ça. Or, un psychanalyste, qu'est-ce qu'il vous demande ? De parler de votre passé. Donc il va dans le sens de la maladie. Et les gens qui se considèrent comme mauvais, à force d'explorer leur intérieur alors qu'ils sont déprimés, arrivent à trouver des choses qui les horrifient et sautent par la fenêtre.
Freud, lui, il a envisagé ça comme ça ou pas du tout ? Il avait conscience ou il a imaginé que la cure psychanalytique pouvait quand même avoir des limites et qu'on ne pouvait pas l'appliquer à n'importe qui ?
Alors, bon, je crois qu'il a assez vite compris que la psychose, c'était pas du tout son domaine.
Qu'est-ce que c'est que la psychose ?
La psychose, c'est les fous. La schizophrénie, la paranoïa, ce sont des gens qui sont à côté de la réalité, qui ont un délire, et en général un délire de persécution.
Et la névrose ?
Staline et Poutine...
sont des psychotiques ?
Sont des psychotiques. Les schizophrènes sont des psychotiques. Et là, la psychanalyse, c'est une très, très, très mauvaise idée, ce que Freud avait vite compris. En revanche, la névrose, ben, c'est vous et moi. C'est-à-dire des personnes qui sont dans la réalité, qui raisonnent, qu'on peut faire changer d'avis, mais qui peuvent avoir des troubles comme une phobie, la phobie des araignées, qui est une grande banalité, qui n'est pas un handicap.
Ou des rats au hasard.
Des rouges, ou des souris, ou... Je vois... Bon, vous n'êtes pas obligé, Véronique, de monter sur votre chaise. La souris d'ordinateur ne rentre pas dans ces phobies-là.
D'accord. Vous faites bien de me le préciser.
Donc, les phobies... Rares sont les personnes qui n'ont pas de phobie, entre la viande rouge, le vertige, la peur du vide, etc. etc. Donc ça, on est dans la névrose, l'hystérie, qui est de toujours chercher à se conforter à ce qu'on imagine que l'autre attend de soi. Donc des personnes qui sont tout le temps dans la séduction et qui sont tout le temps en train de séduire et de repousser. Du style, ah docteur, mais on se connaît depuis 10 minutes, mais... Jamais j'ai vu un médecin me comprendre aussi bien. C'est incroyable, vous avez tout de suite tout compris. Ben, dites-moi comment je peux vous aider. Ah non, vous pouvez rien pour moi. On est tout le temps en séduction, en répulsion. C'est ça l'hystérie.
Voix de Freud datant de 1938.
Under the influence of an older friend, and by my own efforts,
a starving young physician tried to better his position by discovering what made his patients tick. Oh, Dr. Freud, oh, Dr. Freud, how we wish you had been differently employed. For this set of circumstances sure enhances the finances of the followers of Dr. Sigmund Freud.
La suite de l'histoire. Pour en revenir à Freud.
Bon, Freud a été très enthousiaste au départ et il a pensé qu'il avait fait la découverte de tous les temps en psychiatrie, à savoir qu'il allait guérir tout le monde.
Grâce à la psychanalyse.
Grâce à la psychanalyse. Et il y a vraiment cru. Parce qu'en fait, il a d'abord commencé avec Charcot, donc à Paris, à faire de l'hypnose. Et puis il était mauvais. Il n'y arrivait pas bien parce que, comme Charcot, il faisait une hypnose extrêmement autoritaire. Pas comme Bernstein. Et donc, au bout d'un moment, il a compris les limites. Juste parce qu'il ne savait pas faire, qu'il n'était pas un bon hypnotiseur. Et donc, il a inventé la psychoanalysis. Je ne peux pas vous le dire avec l'accent allemand. Et au début, il s'est dit, c'est génial, ça marche, c'est incroyable. Parce qu'en fait, il est tombé sur une série d'hystériques qui voulaient lui faire plaisir. Donc, ils ont joué la guérison juste pour le séduire. Et là, il n'y avait eu que du feu. Là où je lui fais un reproche aussi, c'est que beaucoup de ces jeunes filles de la bonne société viennoise lui ont expliqué que leur papa leur avait fait des choses pas très recommandées quand elles étaient petites. Il n'y a pas cru. Et maintenant, on sait que la plupart du temps, c'est vrai. Je crois que c'est 20-25% des jeunes filles européennes ont été l'objet de sévices. Il n'y a pas cru et il les a pratiquement traitées de menteuses ou en tout cas ayant des fantasmes oedipiens. Et ça, c'est presque impardonnable de ne pas les avoir cru.
Alors c'est paradoxal parce que par ailleurs, vous dites que pour Freud, le sexe est partout.
Partout. Il ne pensait qu'à ça. C'était un vrai obsédé, mais pour lui, c'était un sexe symbolique, un sexe désincarné. Et d'ailleurs, c'est très extraordinaire de voir que les psychiatres à orientation psychanalytique sont d'une pudeur et n'interrogent jamais les gens à ce sujet-là. C'est impressionnant.
Et c'était son cas, lui ?
Oui, je pense. Je pense qu'il n'allait jamais dans le détail de demander à un homme est-ce que vous avez des érections, une fille, est-ce que vous avez vos règles, est-ce que vous éprouvez un orgasme ? Jamais il posait ce genre de questions.
Et pourtant.
Mais il était dans le fantasme, dans les fantasmes infantiles, qui étaient en général faux. Et quand elle disait vrai, il ne les croyait pas. Le problème, c'est qu'à la fin de sa carrière, il en est complètement revenu. Il a une série de lettres déchirantes, d'une certaine manière, où il explique de manière très cynique, oui, la psychanalyse, ça ne marche pas, laisse passer le temps et puis ramasse les dollars.
Ah oui.
Et ça, c'est un peu impardonnable. Lacan, d'ailleurs.
Vous dites aussi que beaucoup de cas qui sont souvent montrés comme des exemples de guérison grâce à la psychanalyse, au bout du compte, n'ont pas abouti à des guérisons. Ça aussi, vous s'est renseigné ?
Vous savez, chez les psychanalystes, il y a 5 évangiles. C'est le cas de rat, le petit hante, l'homme au loup, l'homme au rat et le président Schreber. Donc c'est les 5 textes inauguraux de la psychanalyse.
De Freud,
avec une analyse détaillée. Et en fait, alors, le président Schreber, c'était uniquement sur des textes. Il ne l'a jamais rencontré, donc on va le mettre à part. Mais les 4 autres ont été aggravés terriblement. Ça n'a pas du tout marché. Il s'est planté sur le diagnostic de l'homme au rat, qui était un bon psychotique, alors qu'il en a fait un obsessionnel. Dora était une hystérique qui s'est aggravée toute sa vie, qui a eu 5 ans de psychanalyse, et que tout le monde décrit comme une femme épouvantable, qui n'a pas du tout été aidée par la psychanalyse. Le petit Hans, il avait une phobie des chevaux dans la rue. Comme tous les petits garçons de 4-5 ans de son âge, qui a guéri. Et d'ailleurs, dans un de ses textes, il dit oui, bon, peut-être ça a un petit peu accéléré la guérison. Il n'était même pas sûr. Donc on voit qu'il s'est glorifié de ses 5 prises en charge, enfin des 4 prises en charge, et c'était tout à fait faux.
Alors on sait aussi à quel point la famille a compté pour Freud. En tout cas, elle est très souvent citée, convoquée quand on raconte l'histoire de Sigmund Freud, notamment de sa fille. Quel père était-il ?
J'ai un peu de mal à répondre à cette question. Je crois que ce n'était pas un père très facile, malgré tout. Et puis il était tellement névrosé lui-même, tellement malade en fait, avec cette phobie des chemins de fer et puis cette cocaïnomanie, parce que c'était un grand cocaïnomane qui était à la gloire de la cocaïne, qui a réussi à sevrer un de ses amis de l'héroïne au profit de la cocaïne, et ça s'est très mal terminé pour cet ami. Parce que la cocaïne est plutôt pire, elle est plus addictive encore que l'héroïne. Donc c'était un curieux père. Et puis surtout, il avait une notion de la famille. Et c'est le problème de beaucoup de scientifiques, c'est de s'imaginer que leur cas est universel. Or, le modèle cellulaire de la famille papa, maman, bébé, c'est pas du tout universel. Parlez-en en Papouasie, parlez-en en Afrique noire, parlez-en aux Antilles, parlez-en aux Amérindiens. Ça n'a pas de sens. Ça n'existe pas. Donc le complexe d'Oedipe n'existe pas de manière universelle. Les fameux tabous universels n'existent pas. Dans les irruptions de l'inconscient, donc il a cité le rêve, je suis d'accord, le lapsus, je suis d'accord, l'acte manqué, je suis d'accord, et il a loupé le principal, qui est l'intuition, justement, qui est l'irruption de l'inconscient dans le conscient. Et ça, c'est un oubli énorme.
Qu'est-ce qui reste de lui, finalement, aujourd'hui ?
Il reste un découvreur, il reste une méthode qui permet de faire un développement personnel, il reste un passage dans l'histoire de la psychiatrie. Dans tous les pays du monde, ou presque, c'est un passage de l'histoire oublié. Aux États-Unis, en Allemagne, c'est pratiquement oublié. Il n'y a plus que la France, l'Argentine et un peu l'Italie qui pratiquent encore la psychanalyse, qui est un peu vintage, il faut bien le dire.
Et donc, vous lui mettez, vous hésitez, entre 4,9 et 5,1 sur 10, ou l'inverse, dites-vous, dans
absolument.
Votre avis.
Absolument.
Patrick Lemoine en a commencé cette émission en évoquant celui qui est considéré comme le prototype du génie. Il s'agit d'Einstein. Maintenant, on va parler de celui qui, pour vous, est le plus grand génie de tous les temps.
Léonard de Vinci.
Voilà, Léonard de Vinci.
J'ai beaucoup hésité entre Léonard de Vinci et Pascal.
Ouais.
Mais Léonard de Vinci, je pensais encore un cran au-dessus.
Pourquoi ?
Parce qu'il maîtrisait tout. C'est-à-dire que c'était un génie de la peinture, tout le monde le sait, mais c'était un génie de la mécanique, c'était un génie assez philosophique malgré tout, il avait quand même beaucoup de pensées, c'était un génie militaire.
Architecture.
L'architecture, bien sûr, la sculpture, les maths, enfin c'était à la fois un scientifique et un artiste, et ça c'est presque unique dans l'histoire. Pascal, il était un génie des maths, puis de la philosophie, mais le dessin, la peinture, c'était pas du tout son truc.
Est-ce qu'on a beaucoup de textes, beaucoup de sources qui nous parlent de Léonard de Vinci, de son psychisme, dont on peut dresser un portrait comme ça?
Il y a énormément de sources, il a énormément suscité de commentaires. Lui-même a beaucoup écrit sur ses carnets. Alors, c'était pas philosophique ce qu'il écrivait, c'était plutôt des descriptions de ses machines de guerre, ou de ses hélicoptères, ou de ses sous-marins. Mais il a beaucoup écrit, et puis surtout, il a eu un rôle quand même politique assez important. Il était ami avec César Borgia, il était ami avec Machiavel. Il a rencontré quand même énormément de personnes importantes de cette époque d'ébullition qui était le Risorgimento, la Renaissance italienne.
Vous pensez que si on observait aujourd'hui le cerveau de Léonard de Vinci, on trouverait quoi ?
Je ne serais pas surpris qu'on retrouve le même genre de choses que chez Einstein, parce que inventer un hélicoptère au XVe siècle, il faut vraiment être un enfant ou complètement...
C'est Peter Pan, quoi.
Oui, c'est Peter Pan, c'est exactement ça. J'aurais dû le mettre, vous me donnez un regret, mais j'aurais peut-être dû parler de ce fameux syndrome de Peter Pan, dont le prototype était Michael Jackson, c'est-à-dire quelqu'un qui refuse de grandir.
Qui refuse de grandir?
Absolument, Peter Pan ne grandit pas, il ne vieillit pas, il reste toujours au même âge.
Mais alors, est-ce qu'on n'est pas dans une forme de folie, là?
Oui, d'une certaine manière, oui, mais tous les enfants sont fous. Vous voyez les enfants, ça ne vous choque pas si vous voyez vos enfants à 3-4 ans qui parlent tout seuls, qui poussent des cris, qui se mettent à chanter, à danser et tout, c'est tout à fait normal. Faites faire la même chose à 15 ans et puis pouf, il va se retrouver chez le psychiatre. Donc les enfants sont tous fous, tous les enfants sont dieux, tous les enfants sont immortels. Et
tout
puissant. Génies, et tous les génies aussi.
Alors, pour en revenir à Léonard de Vinci, un génie dans toutes les disciplines. Une tête donc bien faite, bien pleine aussi, c'était un homme très
bien
cultivé.
Oui, ouais, absolument. Très beau, très soucieux de son look aussi, c'était vraiment un homme qui était... Alors c'était pas une figure de mode, parce qu'il s'est composé un look qui était en dehors de son époque.
Original.
Très original, selon moi très beau, et avec à la fin cette tête de prophète qui s'était également constituée. Donc on voit qu'on peut être génial, mais se préoccuper de sa personne, de son apparence.
Souvent, ce sont des personnalités atypiques.
Regardez, pour en venir à Cédric Villani, cette lavalière qu'il arbore, cette coupe de cheveux improbable, lui aussi est très préoccupé de son look, mais qui se fiche complètement de la mode.
Et du regard des autres ?
Et du regard des autres, bien sûr. Lui, il se fait plaisir, ce qui l'intéresse, c'est le regard dans le miroir.
Léonard de Vinci, un génie du bien ?
Oui, mais avec quand même des zones d'ombre. J'ai un peu de mal quand même à accepter des armes de guerre.
Qu'il a imaginé.
Ah oui, qu'il a imaginé et mis en œuvre. Mmh. César Borgia l'adorait, qui était un militaire sans vergogne, qui était vraiment, lui, plutôt un génie du mal, carrément, qui n'hésitait pas à torturer, à faire des guerres, uniquement pour son bon plaisir, ou du moins pour sa politique. C'était pas du tout pour convertir comme... Je sais pas moi, Saint-Louis qui était un fanatique, mais il faisait les croisades pour convertir. C'était l'idéologie de l'époque. César Borgia, c'était juste pour avoir le pouvoir.
Léonard de Vinci s'est mis à son service.
Oui, oui, absolument.
Mais est-ce que tout ça n'est pas à remettre aussi dans un contexte, à une
bien
époque
sûr,
où la valeur de l'individu était bien moindre qu'aujourd'hui, par exemple ?
Je ne suis pas absolument convaincu de ça. Mais ce dont je suis convaincu, c'est que Léonard de Vinci aimait beaucoup les sous, qu'il était tout le temps à la recherche de protecteurs, et que quand les Sforza n'étaient plus au pouvoir, il a cherché un autre protecteur. Il a trouvé César Borgia, qui était assez généreux et assez riche, c'était un banquier quand même. Et César lui a dit, tu vas me faire un tank, ben il a fait un tank. Il a fait plein d'armes comme ça, il a fait des défenses pour les cités, il a détourné des fleuves pour assiéger des villes, il a fait des choses militaires étonnantes, d'ailleurs complètement géniales.
Un Peter Pan qui avait quand même bien les pieds sur terre donc. Hein.
Oui, c'est ça qui est étonnant chez Léonard de Vinci, c'est qu'il était complètement pragmatique, mais complètement génial, complètement enfantin, et puis aussi très bipolaire. Avec des moments où il est complètement au 36e dessous, des moments où il est exalté, et puis après il disparaît, puis il réapparaît. Donc je pense qu'il faisait partie de cette grande cohorte des bipolaires géniaux.
Dans la grande famille des artistes...
J'appelle le...
celui qui a défrayé la chronique là, il y a quelques temps, parce que des livres, notamment de ses enfants, petits-enfants, ont été publiés. Pablo Picasso,
oui,
dont la personnalité est plus que contestable, même si son œuvre, elle, est véritable
génie. Le génie du XXe siècle et un des plus grands génies de la peinture de tous les temps. C'est incontestable. Là aussi, il y a un avant Picasso, un après Picasso. Il a vraiment renversé la table. Il a fait autre chose. En plus, toute sa vie, qui a été très longue, 85 ans, je crois, il a changé de style. Parce que un Picasso de la période bleue n'a rien à voir avec un Picasso de Guernica, n'a rien à voir avec un Picasso de la fin de sa vie. Tout le temps, il a inventé, il a créé. Donc c'est vraiment lui aussi, en art, le prototype du génie. En revanche, c'était un sale type, faut bien le dire. Avec toutes ses femmes, avec ses enfants, il était abominable. Le diagnostic que j'ai porté chez lui est plutôt de pervers narcissique, qui n'est pas très aimé des psychiatres comme diagnostic, mais il colle vraiment bien.
Qu'est-ce que c'est qu'un pervers narcissique ?
C'est quelqu'un qui ne s'intéresse qu'à lui-même. Il n'y a que lui qui compte, qui a une image de lui mégalomaniaque. Je suis le meilleur du monde, quoi, en gros, Picasso. Je ne sais plus quel était le critique d'art qui disait que Matisse s'intéressait à la peinture et Picasso ne s'intéressait qu'à Picasso. Et le pervers, c'est quelqu'un qui fait le mal en projetant sa propre culpabilité sur l'autre. Je m'explique, je suis expert, et combien de fois j'ai vu des violeurs qui disaient « Je l'ai violé, oui, mais enfin c'est de sa faute, elle m'a aguiché, c'est une salope, elle l'a bien cherché. » Mais c'est pas une psychose non plus, c'est des gens qui ont quand même les pieds sur terre, mais culpabilité, ils connaissent pas, c'est pas moi qui suis coupable, si je te viole, c'est de ta faute.
Et pourtant, Picasso a été capable de travailler...
Culpabilité, jamais. Je crois vraiment pas. La façon
mais d'où lui vient...
Toutes ces femmes qui sont suicidées en masse, son fils alcoolique, ils ont tous mal fini, ils s'en foutaient, a priori, complètement. Il a tout essayé, les ménages à trois, il les a humiliés. Rares ont été celles qui l'ont largué. Question de survie, il l'a très très mal pris. Enfin, comment peut-on abandonner un aussi grand génie qui a fait autant de bien pour toi ?
Quelqu'un qui est malgré tout capable aussi d'une conscience de l'horreur de la guerre. Quand on regarde Guernica, c'est d'une puissance indescriptible.
C'est absolument vrai, c'est absolument vrai. Mais c'était pas sa famille, c'était pas ses proches, Guernica. Ça reste malgré tout assez abstrait, même si ça prend aux tripes. Je pense que, comment dire, il était immensément riche. Et il adorait l'argent lui aussi, beaucoup plus que Léonard de Vinci. Mais il était communiste, ça le gênait pas. Et il a fait quelques donations au Parti communiste français, mais il n'a jamais vraiment milité. C'est-à-dire qu'il n'avait pas peur du paradoxe, mais je crois aussi qu'il cultivait son image. Je dirais pas Guernica, c'était uniquement de la pub, mais je suis persuadé qu'il y a une partie, une belle image qu'il donnait au monde d'antifasciste, ce qui est très bien d'ailleurs.
Alors, dans un autre registre artistique, pour terminer cet entretien, j'aimerais que vous nous disiez un mot de Zizou.
Ah, Zizou. Est-ce que je vais oser vous l'avouer ?
Allez-y.
Je n'aime pas le foot. Je n'aime pas le foot. Je n'ai jamais aimé le foot. Et pourtant d'abord, je me suis fait engueuler par tous mes proches qui m'ont dit « Mais tu ne peux pas ne pas mettre un sportif, c'est pas possible. »
Et pourquoi lui ?
J'ai pris mes grimoires et j'ai lu beaucoup d'articles disant que c'était le plus grand génie du foot de tous les temps.
D'accord.
Circuler, il n'y a rien de plus à voir. Deuxièmement, ce qui m'a intéressé chez lui, parce que j'aurais pu prendre... son nom m'échappe, le tennisman qui vient de gagner Roland-Garros,
Nadal.
Rafael Nadal, qui est un génie du tennis, certainement, et en plus qui a une profondeur de réflexion, qui a vraiment des phrases tout à fait étonnantes. Mais Zizou, il a une chose en plus, c'est qu'il a deux carrières, c'est-à-dire qu'il a fait une carrière de footballeur et il a fait une carrière de coach sportif, d'entraîneur ou de sélectionneur, je ne sais pas comment il faut dire. Et qu'il a parfaitement réussi dans les deux cas. Et je me dis quand même que son intelligence n'est pas que dans ses pieds, qu'il a su quand même galvaniser ses troupes, les emmener à la victoire, et ça, c'est pas rien. Et puis, il a su surprendre, et ça, un génie, ça doit surprendre. Par exemple, le coup de boule qui a mis fin à sa carrière, à Materazzi, je me disais, bon, c'est un psychopathe, c'est une brute, quand on l'embête, il donne un coup de boule. Et donc, je suis allé voir cette vidéo, j'ai regardé des dizaines de fois, et j'ai l'intime conviction... encore une fois, ce n'est qu'une intuition clinique, que c'est un truc qui est réfléchi et administré avec une précision chirurgicale. Parce que
le
si vous voyez, Materazzi lui dit un truc, personne n'a jamais su ce qu'il lui a dit, probablement épouvantable sur sa famille, sa mère, sa sœur, probablement les deux. Il réfléchit un moment, on le voit qu'il réfléchit, et il se retourne, et très calmement, il va vers Materazzi, et il lui donne le coup de boule dans la poitrine. Alors qu'un voyou, c'est dans la figure. Et ça fait du mal. Alors que là, il l'a fait de manière à pas faire de mal. À Materazzi, comme c'est un footballeur italien, il s'est roulé par terre et tout. Mais c'était pas violent, en fait. C'était chirurgical. Je pense qu'il avait analysé que de toute façon, c'était râpé, que le match était perdu. Et il est parti sur une espèce de pied de nez planétaire.
Magistral.
Et chapeau l'artiste, quand même. Et puis pareil, il emmène, en tant qu'entraîneur, le Real de Madrid au pinacle. Et paf, il démissionne. Et là, il a stupéfait tout le monde. Donc c'est soit le... il est nul pour dire au revoir, ou au contraire, c'est le dieu des sorties.
Et je pense que vous penchez plutôt
oui,
pour cette
deuxième
solution. Patrick Lemoine, pour conclure ces entretiens consacrés à ces génies à qui vous consacrez un livre paru aux éditions Odile Jacob, j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur le génie probablement le plus important du cinéma. Je veux parler de Charlie Chaplin, à qui vous consacrez un de vos chapitres. Avec une silhouette, on le reconnaît, il a su imposer ce personnage de Charlot. Qu'est-ce qui vous évoque à vous ce personnage ?
Mon enfance, forcément, mais aussi ma vie d'adulte, puisque je pense que c'est une des seules fois où, en tant qu'adulte, j'ai pleuré au cinéma, aux Lumières de la Ville. C'est un film que je trouve bouleversant, de beauté, de poésie. On voit ce personnage de modeste, de clochard, amoureux, mais tellement fragile, tellement sensible, tellement délicat avec cette jeune fille. Chaque fois avec les femmes, il est... tellement délicat qu'il n'ose même pas se déclarer, qu'il se sacrifie régulièrement, dans le cirque aussi, il se sacrifie à la fin, sans même oser avouer sa flamme. Et donc, je le trouve extrêmement émouvant.
C'est un perdant magnifique, mais pas toujours, c'est aussi grand, parfois ouais. un gagnant.
Dans la vie, oui.
Ah oui, dans la vie, oui.
Mais au cinéma, presque toujours perdant.
Mm-hmm.
L'amoureux est conduit.
Et puis, il a eu des intuitions incroyables. Historique même.
Le Dictateur est quand même effectivement un grand film là-dessus.
Qui a précédé la Deuxième Guerre mondiale.
Hein. Cette caricature qu'il fait de Hitler, dont plusieurs personnes lui avaient dit qu'il se ressemblait, avec la même moustache, la même taille à peu près. Donc il a osé incarner Hitler, il a trouvé un complice pour faire Mussolini. Et cette satire au vitriol qu'il a faite des deux dictateurs, rien que pour ça, il faut le porter au nu. Même si je trouve que le discours de la fin est quand même très filandreux, on s'ennuie un peu quand même. C'est trop long, ce discours final où il parle.
Génie du bien, Charlie Chaplin ?
Alors oui et non. En gros, 50-50, parce que effectivement, il a fait du beau, il a fait progresser le cinéma, il a ému des nations, il a été capable quand même... de donner $1 million à Coluche quand il a créé les Restos du Cœur, en disant « je ne donne pas cet argent, je le rends, parce que j'ai toujours été un clochard, et je rends au clochard que j'étais ». Il a eu une enfance un petit peu à la Cyrulnik, hein. Il s'est retrouvé dans la rue,
C'est un résilient.
C'est un résilient exceptionnel. Et comme tous les résilients, il y a des cicatrices douloureuses. Mais il n'a pas eu la capacité de sublimation aussi forte que chez Boris Cyrulnik, qui est un génie du bien, lui, complètement. Et lui, quand même, il aimait énormément les sous, il faut bien le dire. Et puis, il aimait beaucoup la chair fraîche. C'est-à-dire qu'il a eu une collection de jeunes femmes, parfois de très jeunes femmes, qui lui ont été reprochées, qui lui ont soutiré aussi des pensions alimentaires plus que confortables, qui, à mon avis, l'ont également roulé dans la farine, parce que celle qu'il a accusée de pédophilie, parce qu'effectivement, il l'a connue au sens biblique, très jeune, elle était enceinte. Quand on regarde les photos, franchement, elle est très pulpeuse, on lui donnerait facilement 25 ans. Donc je crois qu'il s'est fait avoir. Mais malgré tout, il a été un père de famille et un mari exemplaire sur les 30 ou 40 dernières années de sa vie. Mari fidèle, il a élevé ses enfants avec des belles réussites, comme Géraldine Chaplin. Donc je pense que la deuxième partie de sa vie rachète largement ses frasques.
L'histoire.
Sans transition, Patrick Lemoine, j'aimerais maintenant qu'on aille du côté des mystiques, et notamment avec une figure qui, j'ose le dire, dans votre livre, en prend pour son grade. Et à tous ceux qui sont des inconditionnels de Saint-Dominique, je préviens, attention à ce que vous allez entendre.
Accrochez vos ceintures. Oui, ben Saint-Dominique... Je fais toujours le parallèle entre Saint-Dominique et Saint-François d'Assise, qui étaient contemporains, tous les deux créés un ordre prêcheur, mais dont l'un était tout de douceur et de tolérance, je parle de Saint-François d'Assise, et l'autre qui était quand même plus du côté du fanatisme. Même si on me dit « tu fais un anachronisme, replace-toi dans le stade de l'époque, la croisée des Albigeois, c'était normal pour l'époque, moi je veux bien, mais Saint-François d'Assise, il n'a jamais été... des Albigeois, il n'a jamais soutenu ce genre de choses. Or, Dominique, eh bien, il suivait les armées Louis VIII, puis Saint-Louis, qui ont massacré, rappelez-vous, tué-les tous, Dieu reconnaîtra les siens, le fameux archevêque de l'époque. Bref, Dominique n'a jamais condamné la croisade des Albigeois, il n'a pas combattu, mais il suivait quand même les armées, et quand il rentrait dans les villes dévastées, eh bien, il combattissait le peu qui restait. Et il faut bien le dire, c'est sous son influence que le pape a vraiment mis en forme l'inquisition. Dominique n'a jamais été inquisiteur, mais on peut dire quand même que c'est le patron des inquisiteurs. La plupart des inquisiteurs ont été des dominicains, dont l'abominable Torquemada. Si aujourd'hui les dominicains sont un ordre exemplaire de lettrés, de... on va dire presque d'aristocrate de la pensée mystique, que j'admire beaucoup, que je respecte énormément, la pensée quand même lourde.
On lui fait de notre amitié quand même. Hein. Faisons peut-être le portrait de deux femmes, grandes mystiques, grandes croyantes, Mère Teresa et puis Sœur Emmanuel. Est-ce que vous les mettez sur le même plan ?
Mais là encore... Je fais presque un anachronisme parce que Mère Teresa était une albanaise, un milieu finalement très catholique, très chrétien, alors que Sœur Emmanuel, ben, elle est en Belgique. Et c'est pas du tout donc la même culture. Ce qu'on peut dire de Mère Teresa, c'est qu'elle a fait des choses extraordinaires, ce mouroir, ses orphelines, enfin, elle a fait des choses exceptionnelles. Mais malgré tout, elle était vraiment cette croyance que malheureusement beaucoup de catholiques ont véhiculé, que pour accéder par lui, il fallait réellement souffrir. Lorsque Mère Teresa raconte elle-même que dans un de ses mouroirs, elle avait interdit les étoiles, elle-même qui était en train de mourir, qui souffrait d'un ostéosarcome, c'est horriblement douloureux. Et elle lui tenait la main et disait « Je souffre, ma mère, je souffre. » C'est Jésus qui te tend la main, qui te donne la main pour t'emmener au ciel. « Dites-lui d'arrêter, ma mère. » Elle le dit ça sans aucun humour. Donc ça, je trouve que c'est très dur en tant que médecin à interdire les antalgiques. Je trouve que c'est dur. Mais le problème, c'est que quand elle était malade, elle allait plutôt dans des cliniques de luxe. Et je serais bien surpris qu'elle n'eût pas eu, à l'époque, les antalgiques. Et ça, j'ai un peu de mal à lui pardonner. Et puis, elle a eu quand même des contacts avec des dictateurs peu fréquentables comme Duvalier, comme Marcos. Et ça, c'est un peu dur aussi. Et
on
puis,
dit qu'elle
c'était aussi une star des médias, aussi.
On dit qu'elle était dure, parfois, très avec dure. Ses sœurs aussi.
Très, très dure, oui. Non, elle avait un petit côté dictateur. Mais bon, c'était aussi son contexte culturel de l'époque. Et puis, elle a fait des choses magnifiques. Mais... à côté de Sœur Emmanuelle, que j'adore.
Alors, Sœur Emmanuelle, qui était quand même aussi une star des médias, qui savait très très bien les utiliser.
Absolument.
Elle n'était pas naïve. Hein.
Non, mais elle avait un tel humour, une telle autodérision, cette complicité avec l'abbé Pierre, avec Coluche, toute cette époque. Moi, je les adore, ces trois personnages. Sœur Emmanuelle, je ne trouve pas de défaut, c'est simple. C'est vrai que c'était une star des médias.
Ça, il paraît qu'elle avait quand même un sale caractère aussi. Hein.
Faut avoir du caractère. Elle avait du caractère. Dire qu'elle avait un sale... L'abbé Pierre aussi n'était pas commode. Hein. C'était pas facile, mais c'est
ce
des
qui
gens
fait des génies
ont...
aussi.
Oui, je pense, vraiment, c'est des génies. Et je les mets tous les quatre, hein, Coluche, Sœur Emmanuelle, l'abbé Pierre, Mère Teresa. Pour moi, c'est des génies. Quand même du bien, même si Mère Teresa, j'ai baissé sa note. Mais les autres, je les mets très haut. Même si Coluche était un état limite, délinquant, bagarreur.
Est-ce que c'est qu'un état
drogué.
Limite?
État limite, c'est une maladie particulière, en gros, où. Je cogne, puis après je réfléchis. J'agis, après je réfléchis. Donc c'est impulsivité et abandonnisme. Il est mort, paix à son âme, mais on peut dire, par exemple, que le prototype de l'état limite, c'est Johnny Hallyday, qui pouvait, à Lyon, casser la gueule du directeur du Palais d'Hiver, parce que la sono n'était pas bonne, mais qui avait le cœur sur la main, qui avait plein de parasites, qui couvrait d'or, quitte à se ruiner, parce qu'il ne voulait pas être abandonné, il avait toujours cette peur de l'abandon, dont j'ai connu le père, qui l'avait abandonné, et qu'il a abandonné à son tour. Donc c'est vraiment une histoire d'abandon, de générosité et de passage à l'acte avec l'alcool, la drogue, les bagarres, la délinquance. Et Coluche était dans le même registre. Il a terminé. Il était capable, par exemple, de débarquer avec sa bande de motards. Ils étaient complètement shootés, de défoncer les vitrines, de faire le coup de poing. Et en même temps, même si c'est la justice qui lui avait demandé de faire des travaux d'intérêt général, a été capable d'inventer les Restos du Cœur, qui est un truc absolument magnifique.
Avec, c'est un coup de génie, les Restos du Cœur?
Oui, je crois. Je crois vraiment.
C'est-à-dire?
Je crois vraiment. Eh bien, personne n'avait eu cette idée. Il est allé beaucoup plus loin que le Secours catholique, beaucoup plus loin que le Secours populaire. Il a réussi à faire un mouvement de solidarité avec les Enfoirés, qui est aussi un autre coup de génie. Donc je pense qu'il a eu des coups de génie. Et puis, ça, enfin, c'est dans mon livre, mais dans la campagne présidentielle, il a eu des traits d'humour absolument extraordinaires.
Enfin, avec beaucoup d'excès en tout genre.
En tout. Il était excessif en tout. Mais les génies sont excessifs, même... Sœur Emmanuelle est excessive dans le bien, Mère Teresa aussi, Léonard Vinci était excessif en tout, donc un génie doit être excessif. Rares ceux qui ne le sont pas, il y en a quand même, hein. Jean-Sébastien Bach, grand mystique aussi, un homme pathologiquement normal, il était incroyablement bon père de famille, bon mari, bon fonctionnaire de la musique, sans ambition, toujours dans des postes de seconde zone.
Et pourtant génial.
Et c'est avec Mozart et Beethoven, c'est les trois plus grands génies, selon moi, de la musique de tous les temps. Alors que Mozart, lui, était complètement bipolaire, complètement farfelu, un grand enfant aussi, peut-être un petit peu Asperger aussi sur les bords. Donc tout le monde peut être un génie, tout le monde n'a pas la chance d'y arriver, mais on peut avoir toutes les pathologies du monde, et voir être normal est quand même génial.
Ça nous laisse de l'espoir. Merci beaucoup, Patrick Lemoine, de nous avoir accompagnés dans cette émission. Je rappelle le titre de votre livre, La santé psychique des génies. Génie du bien, génie du mal, c'est un livre que vous avez publié aux éditions Odile Jacob. Et puis il y a son grand frère, hein, paru en 2020, qui s'appelle La santé psychique de ceux qui ont fait le monde. Encore merci.
C'est moi qui vous remercie.